Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous pensez que les blogs ne sont pas morts? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, nouvel épisode hors série qui va vous prouver que oui, les blogs ne sont pas morts malgré tout ce que vous pouvez écouter. Même si on vous dit que les réseaux sociaux ont tué les blogs, eh ben mon invité, Céline Dupont, va vous prouver que ce n'est pas le cas et qu'un blog continue à avoir de l'audience, continue à avoir des commentaires et une très belle porte d'entrée aussi pour démarrer dans son activité et avoir plein d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Céline Dupont a ouvert Merci pour le chocolat il y a très 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 longtemps. Elle donnait la date de 2006 quand elle a commencé à bloguer. Donc ça remonte à maintenant, plus de 13 ou 14 ans. Et depuis, elle n'a jamais arrêté. Alors elle a pu changer un petit peu sa manière de faire. Elle a pu aussi changer son rythme de publication. Elle est bien sûr allée sur les réseaux sociaux. Elle fait de la vidéo, elle fait de la photo sur Instagram. Elle a un compte Pinterest, du Twitter, etc. Mais elle est restée fidèle à son blog. Et justement, dans cet épisode, on a parlé de son blog, de son parcours, de comment elle travaille, de comment elle trouve des idées, des portes que ça lui a ouvert, comment elle travaille aussi à côté de ça en freelance, pour des marques, pour des agences. Bref, on a discuté de tout cet aspect-là et vous allez voir que Céline a un sourire qui est vraiment contagieux parce qu'elle partage beaucoup, beaucoup de choses sur son blog, mais elle le partage toujours avec le sourire, bienveillance, et avec une grande sincérité. Et c'est ce qui fait très probablement aussi sa marque de fabrique et qui fait que finalement, vous allez voir en regardant le compte de Céline, elle n'est pas suivie par des centaines de milliers de personnes, mais par 13 000 personnes sur Instagram, ce qui est un chiffre important, mais finalement relativement faible par rapport aux gros influenceurs, terme d'ailleurs, elle va nous dire pourquoi elle n'aime pas vraiment ce terme-là, mais qui lui permet, qui lui ouvre quand même des belles portes, des belles opportunités. Et si vous allez faire un tour sur son blog, vous allez vous rendre compte que ça lui a permis de voyager, que ça lui a permis de vivre plein de choses assez incroyables. Et on a parlé donc de tout ça dans cet épisode, avec lequel j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à parler avec Céline, que j'avais croisé il y a assez longtemps, et on en a parlé dans une mission, tout simplement. On dit même un petit peu comment ça s'est passé pour avoir été découvert là-dedans. Et vous allez voir que vraiment, ça vous montre aussi que le blog a une pérennité qui n'est pas mort. Elle nous dit très clairement que son audience est toujours là, qu'elle n'a pas baissé non plus. Et c'est vraiment, je trouve, aussi très encourageant pour ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise sur les réseaux sociaux, qui voudraient faire aussi du blog, de l'écrit, qui n'ont pas envie d'être en permanence sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc. Et qui voudraient faire aussi, tout simplement, de l'écrit, de partager ce qu'ils savent aussi par écrit. Je vous laisse maintenant écouter cette conversation avec Céline. Et si cet épisode vous a plu, comme tous les autres épisodes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur iTunes, ça aide le podcast à se faire connaître. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Si des gens, par exemple, ont envie d'écrire un blog et qui ne sont pas très certains de vouloir le faire, et qui se demandent si vraiment ça sert à quelque chose, envoyez-leur cet épisode, faites-leur écouter cet épisode, et je suis sûr qu'ils changeront d'avis, mais qu'ils auront aussi une vision de le faire, une manière de le faire. Vraiment, elle le dit, elle n'a pas de ligne éditoriale, mais finalement, elle a une manière de partager les choses qui est vraiment très inspirante, et c'est vraiment pour ça que j'étais très très heureux de discuter de tout ça avec Céline et que je vous encourage vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse écouter maintenant cet épisode avec Céline et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre avec un autre créateur de contenu. Bonjour Céline, comment vas-tu ?
Bonjour Bertrand, mais écoute, ça va bien, et toi ?
Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va faire un petit peu les présentations pour ceux qui te connaissent pas. Comment tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je te demande pas si t'as une carte de visite, est-ce que t'as mis sur ta carte de visite, mais presque un petit peu, tu vois.
Alors, c'est toujours un peu compliqué de se présenter quand on fait le métier que je fais, mais pour simplifier au maximum, donc moi je m'appelle Céline, je blogue depuis 2006, je suis présente sur les réseaux et mon métier c'est un joyeux mélange et fourre-tout de blogging et de création de contenu sur Internet.
Alors, tu dis 2006. Hein, c'est
oui.
ça. Donc tu as une longévité qui est redoutable, j'ai envie de dire.
Un vrai dinosaure.
Oui, un vrai dinosaure. Mais en fait, c'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que bon, on s'est croisé il y a très longtemps maintenant de ça. Il y a, je pense, il y a 10 ans en fait.
C'est ça, c'est en 2009, ouais.
Oui, bah toi, t'as une meilleure date. Moi, j'ai pas recherché les dates là-dessus. effectivement, sur la longévité, je trouve que c'est remarquable. Alors, on en parlera parce que c'est intéressant. Par contre, pour ceux qui te connaissent vraiment pas, où est-ce qu'on peut te lire? Où est ton blog?
Alors, mon blog s'appelle Merci pour le chocolat. Donc, on le trouve à l'adresse mercipourlechocolat.fr. Sur Facebook, c'est aussi Merci pour le chocolat, sur Twitter et sur Instagram, et sur Pinterest, c'est MP Choco. C'est un pseudo un peu étrange, enfin voilà, qui ressemble pas à grand chose, mais qui est pas trop long et qui se retient bien. Voilà, je ne suis pas fan de Matt Pokora, hein, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est MP Choco.
Non mais t'as commencé avant sa naissance de toute façon, donc c'est plutôt...
Bah c'est ça.
c'est plutôt lui qui devrait des royalties sur le MP.
Écoute, je vais y penser, je vais lui demander.
Comment t'as commencé ton blog en fait, finalement, cette aventure, comment elle commence?
Elle a commencé, alors elle a même pas commencé en 2006, elle a commencé bien avant, elle a commencé en 2004. Moi j'étais déjà présente sur internet parce que je suis tombée un peu par hasard dans une agence web à la fin des années 90. Je m'occupais de référencement, à l'époque on disait référencement sur les moteurs de recherche, maintenant on appelle ça du SEO. Et donc j'avais déjà développé mon propre site perso qui était essentiellement familial. Je mettais des photos de mes enfants, etc. Mais il n'y avait pas de plateforme qui existait vraiment à l'époque. Donc j'avais développé ça en HTML. Je m'étais amusée à faire ça. Et en cherchant, je te fais la version longue, hein. En cherchant en fait des petites images, des petits gifs animés, etc. Je suis tombée sur les premiers blogs. Donc 2004, je tombe sur des blogs et je trouve ça trop sympa et je me dis oh là là, mais je veux faire pareil. À l'époque, en 2004, j'étais en congé parental de mon deuxième enfant. Donc j'avais un peu de temps, en plus il dormait beaucoup, c'était super. J'avais le modèle bébé cool, donc voilà. Et j'ai cherché un petit peu à droite à gauche et je suis tombée sur une plateforme de blog qui existait déjà, qui s'appelait Jweb. Il me semble que tu as connu, non, Jweb?
Oui, oui, j'ai connu Jweb et c'est ce que j'ai marqué dans mes notes. J'ai dit qu'en fait, toi comment on utilisait des outils que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Non, c'est pas possible. Donc voilà, donc j'ai ouvert un premier blog. C'est là où je me suis trouvé un pseudo, puisqu'à l'époque, évidemment, on bloguait essentiellement sous pseudo et de façon totalement anonyme. Mais par contre, ça, j'ai dû le garder 2 ans et c'était vraiment très premier degré. Je racontais, c'était un peu comme un journal intime, extime, etc. Il était très moche, enfin bref, ça me plaisait pas tant que ça.
C'était presque un MySpace en fait, hein, au final.
Ouais, ça ressemblait un peu à MySpace avec moins de monde dessus, c'était moins connu. Mais en revanche, le fait d'avoir ce premier blog, je suis tombée dans la marmite parce que j'ai commencé à lire de plus en plus de blogs. Et un jour, je suis tombée sur un blog que j'ai adoré, tant sur le fond que la forme. Ça s'appelait, parce que je crois qu'il n'existe plus, la Thé d'oreiller. C'est une fille qui racontait ses histoires de famille, mais de façon vraiment marrante. Et son blog était vraiment joli. Il y avait tout, en fait. Il y avait le fond et la forme. Et c'était sur Blogspot, Blogger. Et du coup, j'ai fermé mon premier Jweb. Enfin, je l'ai fermé, je l'ai laissé mourir de sa belle mort. Et j'ai ouvert Merci pour le chocolat sur Blogger. Et ça a été le début de l'aventure. Donc, c'était en 2006. Et en fait, dès le début, j'ai réussi à trouver le ton qui me convenait, en fait, où je racontais des choses vraiment perso, mais d'un ton un peu plus détaché, un peu plus marrant. Un peu plus léger, et je pense que c'est ce qui a plu. Puis c'était aussi le tout début des blogs, les blogs étaient en plein essor, donc ça m'a amené du monde qui a commencé à lire, et ça a commencé comme ça.
Oui, et puis on disait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog à l'époque, donc toute façon, t'avais même pas idée que ça pourrait arriver un jour.
Jamais, 2006, non, on racontait nos histoires, on se marrait les uns les autres, on suivait beaucoup, il y avait les blog-rolls étaient énormes, enfin voilà, c'était vraiment une communauté de blogueurs et quelques lecteurs, mais pas ce qu'on peut avoir aujourd'hui, non, ça n'a rien à voir.
Et d'ailleurs, WordPress n'était même pas né, parce que finalement, t'as ouvert ton blog avant WordPress. Et finalement, t'es venu. Alors, il y a un nom quand même, ce merci pour le chocolat, il vient d'où? Comment tu t'es arrêté sur ce nom-là finalement?
Alors, c'est une histoire qui est à la fois. Enfin, non, en fait, il n'y a pas d'histoire derrière. C'est. En 2006, donc j'avais mon troisième enfant qui avait quelques mois et voilà, et j'étais crevée parce que le troisième était beaucoup moins cool que le deuxième. Hein. Pas de jugement de valeur, hein, juste un constat. Il dormait beaucoup moins, voilà. Puis trois enfants, tu passes quand même dans une autre dimension en termes de gestion du quotidien, etc. Et j'écoutais beaucoup l'album d'Olivia Ruiz, La Femme Chocolat. Et je mangeais beaucoup de chocolat pour tenir le coup, forcément. Oui. Donc quand je suis arrivée sur Blogspot, sur Blogger, je ne sais plus si c'était Blogger ou Blogspot à l'époque. Je crois que c'était Blogspot. Et ben, j'ai voulu appeler très originalement mon blog La Femme Chocolat. Et dis donc, c'était déjà pris. Ah mince. Ah. Alors, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, du coup, c'est sorti comme ça. Merci pour le chocolat. Merci pour le chocolat qui m'aide à tenir le coup, peut-être. C'est peut-être ça le fond de l'histoire. Et j'avais même pas fait le rapprochement avec le film de Chabrol. J'aime pas tellement Chabrol en plus, donc c'est pas du tout une sorte d'hommage. Donc voilà, c'est sorti comme ça. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire derrière. C'est quand même l'époque où. Où on se cachait tous derrière des pseudos et des noms de blogs un peu farfelus. Donc voilà, donc c'était merci pour le chocolat. À l'époque, j'aurais pu déposer Céline Dupont, tu vois, parce que ça aurait été possible. Maintenant, c'est carrément impossible. J'ai essayé de changer mon pseudo partout sur toutes les plateformes, à part m'appeler Céline Dupont en 3792. C'est pas possible. Donc je garde merci pour le chocolat et je garde MP Choco.
Oui, alors en plus tu parles finalement de ton comment ça s'appelle de Céline Dupont, mais tu avais même un pseudo
oui.
En plus.
Ouais. Ah ouais, oui, à l'époque, j'allais pas m'appeler Céline. En plus, je parlais de ma vie de famille, donc c'était un peu compliqué. Enfin, c'était un peu compliqué, non, parce que j'ai toujours raconté des trucs assez cool et de façon toujours positive, etc. Mais au début, les gens autour de moi ne savaient pas que je bloguais. Ceux qui me lisaient, c'était des gens qui me connaissaient pas, donc j'avais un pseudo. Donc pareil, j'avais choisi ce pseudo Chalima, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est sorti. Bon voilà, Chalima, Céline, ça ressemble peut-être un peu, je ne sais pas. Ah si, je me souviens quand même que j'avais fait une recherche Google avant de créer ce pseudo, voir s'il existait d'autres gens qui s'appelaient Chalima, et en fait pas du tout. Il y avait une danseuse du ventre en Allemagne qui s'appelait Chalima, donc je me suis dit c'est bon, je suis pas sur le même créneau qu'elle, donc c'est parti pour Chalima. Et c'est pour ça que mes enfants, mon mari, voilà, tout mon entourage, ils ont tous des pseudos sur mon blog et après par la suite sur les réseaux. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était, il y avait quand même pas mal d'anonymat et j'ai tenu à le garder pour mes enfants et mon mari, puisque voilà, je parle d'eux. Alors ils me lisent, hein, ils savent très bien ce que je dis, j'assume tout ce que je raconte et ils ont un droit de regard sur ce que je raconte sur eux, bien évidemment, mais je préfère garder leur anonymat, même si autour de nous, tout le monde maintenant sait que je blogue et les copains et les copines de mes enfants me lisent, etc. Donc voilà, c'est un peu pour la forme, on va dire.
Oui, puis j'imagine que tu as dû te retrouver des fois dans le journal ou des présentations, des choses comme ça. Donc, à bout d'un moment, tu dois être quand même relativement... Alors, je dis pas qu'on te reconnaît hein, dans la rue ou des gens
arrive,
comme ça.
Ça arrive, mais pas énormément. Voilà. Je me montre pas tellement, en fait, hein, sur mon blog comme sur mon compte Instagram. On voit un peu ma tête, mais je suis pas non plus... on me voit pas trop. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de publications dans la presse. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sur Vannes, parce que j'habite Vannes, quand je vais sur Vannes, ça m'arrive de croiser des gens, mais enfin, c'est pas non plus, enfin, je suis pas Beyoncé non plus, hein, faut se détendre, on me reconnaît, mais pas plus que si j'étais, je sais pas moi. Bon, j'en
sais rien d'ailleurs. Non, mais tout le monde, je crois, on finit par être reconnu. Moi, j'étais reconnu un jour en faisant le tour du plan d'eau autour de la maison. Quelqu'un m'a dit, mais tiens, comment va ta fille, etc. Et je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un? Il dit, non, mais avec ma femme, on te suit sur Internet, etc. Donc, voilà. Là, on se fait des coucous. Enfin, voilà, c'est super sympa. Donc, ça arrive, hein, effectivement. Mais bon, effectivement, à notre niveau, pas beaucoup. Parce que, on n'a pas dit par combien de personnes t'étais suivie, sur Instagram, par exemple.
Alors, sur Instagram, je suis à 13 700, quelque chose comme ça. Sur Facebook, ça doit être 7002 à peu près. Ouais. Alors, pour le blog, j'ai pas les stats en tête parce qu'il faut aller les chercher, mais En gros, j'ai 1 million de pages vues par an. Ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne baisse pas. Ça, alors ça n'augmente pas autant qu'avant, mais ça reste quand même très très stable. Voilà, j'ai pas mal de monde aussi qui me suit sur Pinterest. Ça, c'est la plateforme qui a explosé pour moi ces derniers mois, depuis 18 mois, on va dire, qui m'amène beaucoup de monde sur le blog et qui m'amène aussi beaucoup de monde, qui amène beaucoup de monde sur mon profil.
Donc effectivement, alors ce qui est intéressant justement dans la construction, c'est que tu démarres par un blog, ensuite bien sûr les réseaux sociaux sont arrivés là-dedans.
Ouais,
Et
Twitter d'abord, Facebook ensuite, etc.
tu n'as pas abandonné ton blog, contrairement à beaucoup qui ont
Non.
délaissé leur blog, qui l'ont laissé mourir dans un coin, même au point de ne plus renouveler les noms de domaine, hein, j'en ai vu encore un il n'y a pas très longtemps. Non, toi tu t'es accroché à ton blog.
Bah écoute, mon blog, ça a toujours été, enfin, je l'ai longtemps présenté comme étant mon quatrième bébé. Mon blog, je l'adore. En fait, il est à moi, j'en fais ce que je veux, je publie ce que je veux dessus. Il n'y a pas d'histoire d'algorithme, de ceci, de cela. Enfin, je suis vraiment moi-même sur le blog. Sur le réseau, c'est un peu plus compliqué parce que ben, il y a ces fameux algorithmes dont tout le monde parle, mais qui existent, hein, et qui font que si tu veux être vu, lu, etc., il faut un peu se plier aux règles des réseaux. Et aussi, une chose qui m'embête beaucoup sur les réseaux, c'est que si jamais demain Facebook ou Instagram ou Pinterest ou Twitter ferment, ou même en étant moins mélodramatique, si mon compte se fait pirater, si mon compte se fait bannir par Pinterest ou par Instagram parce qu'ils estiment que je contreviens. Est-ce que ça se dit contrevient? Du verbe contrevenir,
Oui,
contrevenant, bref.
on va dire que ça se dit.
Si, voilà, si je ne suis pas dans les bonnes grâces du réseau, eh bien moi je perds tout en fait. Bye bye, plus de compte, plus rien, il faut tout recommencer à zéro. Donc non. Donc moi mon blog en fait je l'ai toujours gardé, je l'ai à un moment bon je publie un peu moins qu'avant mais j'ai toujours 2 à 3 publications par semaine. C'est vraiment le support que j'affectionne le plus, sur lequel je m'éclate le plus et qui me plaît le plus. Voilà.
Oui, effectivement. Alors, quand tu dis deux, trois publications, on enregistre, on est aujourd'hui le 17, et je vois déjà, tu as deux publications cette semaine, 15 et 16
Oui.
juillet, donc dans la série.
Ouais. Ouais.
La semaine dernière aussi, tu étais dans ce rythme-là, même trois publications, effectivement. Ce qui est même une publication finalement assez élevée, parce qu'il y en a plein qui ont gardé leur blog en faisant un article de temps en temps, etc., histoire de dire un petit peu. Toi, on
Ouais.
a vraiment l'impression que c'est le centre d'un petit peu tout, quoi.
Ah, pour moi, c'est le centre. En fait, les réseaux sont là pour graviter autour du blog. Donc voilà. Alors, je dis que je publie un peu moins parce que c'est vrai que pendant très longtemps, mais vraiment très longtemps, donc entre 2006 et on va dire 2015, je publiais une fois par jour. Voire alors en gros j'étais entre 5 et 6 publications par semaine parce que je publiais pas le samedi mais même le dimanche je publiais etc. Donc maintenant je publie beaucoup moins. En fait j'ai monté un autre blog avec une amie à moi qui s'appelait Wonderful Braise, sur lequel aussi on publiait tous les jours, qui se voulait plus magazine en fait que blog, mais qui avait quand même gardé ce côté un peu blog. Et là, ça devenait compliqué en fait de publier tous les jours à la fois chez moi et à la fois sur Wonderful Braise. Donc j'ai un peu baissé la publication. C'est ce qui a ça a correspondu en fait à une petite baisse de fréquentation sur Merci pour le chocolat. Et après, quand j'ai repris, quand on a fermé Wonderful Braise il y a 2 ans, quand j'ai repris, la fréquentation a réaugmenté, mais j'ai pas voulu repartir dans un rythme effréné de publication tous les jours. Entre-temps, c'est vrai qu'avec les réseaux, on passe beaucoup de temps sur les réseaux à consulter, mais aussi à produire du contenu. Donc voilà, mais j'ai jamais voulu délaisser le blog. C'est vraiment mon chez moi en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et pour moi, les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui a amené du monde sur le blog.
Effectivement. J'ai pris une citation qui était intéressante sur ton blog là, parce que je lis. Alors je commente moins quand même, hein, mais je pense. T'as dû constater quand même que les gens commentent moins sur les blogs hein, désormais.
Les gens commentent beaucoup moins. C'est marrant parce que je suis retombée sur un article qui date d'il y a 5 ans et que j'aurais pu réécrire quasiment mot pour mot aujourd'hui, en fait, qui s'appelle Blogueuse éparpillée, où j'explique pourquoi j'ai jamais voulu mettre dans des cases, etc. Et quand j'ai vu le nombre de commentaires, je me suis dit, mais c'est dingue, il y avait 44 commentaires, enfin, le truc vraiment incroyable. Maintenant, un article comme ça, il y a une dizaine de commentaires et encore grand maximum. En revanche, au niveau du nombre de lectures, ça ne change pas. C'est ça qui est dingue. En fait, les gens ont changé leurs habitudes, je pense, de commenter. C'est tellement facile de commenter sur les réseaux. Tu mets un like, tu es connecté en permanence. Sur le blog, c'est un peu fastidieux. Il faut rentrer son nom, etc. Son mail. T'es pas forcément connecté une fois sur l'autre si tu changes de support. En plus, moi, j'ai mis un anti-spam. Donc, en plus, il faut calculer, tu vois. 4 plus 2 égale
Ouais,
6.
mince.
Ah ouais, non, non, vraiment, je me mets des bâtons dans les roues.
Ouais.
Non, mais je rigole, mais je suis contente parce que je vois que sur plein de blogs, il n'y a quasiment plus de commentaires. Moi, j'en ai quand même. J'ai mes fidèles lectrices, parce que souvent, ce sont des lectrices, qui laissent des commentaires. Et voilà. Mais c'est vrai que la discussion se fait plus facilement sur les réseaux.
Oui, alors c'est vrai que si je pense, si on calculait une sorte de taux d'engagement sur ton blog, effectivement, t'as beaucoup de commentaires. Mais je pense notamment, ça vient parce que les gens savent aussi que tu réponds aux commentaires et que
Oui.
tu balances pas un message et tu t'en vas, mais t'es vraiment là. Là, j'ai pris un
Ouais.
article au hasard. Je pense que t'as dû répondre à tous les commentaires qui apparaissent sur la page.
Normalement, ouais. Normalement, je réponds à tout. Bah, en fait, c'est un peu comme au tout début du blog où quand on allait chez les uns, chez les autres blogueurs, moi, je laissais toujours des commentaires. Et alors après, on a dit, ouais, c'est une super technique pour se faire connaître. Mais en fait, l'idée, c'était pas ça. C'était que j'avais l'impression que j'allais chez quelqu'un et que je disais pas bonjour. Tu vois, c'est un peu nono de dire ça. C'est un peu naïf, mais voilà, en fait, moi, j'ai jamais perdu à l'esprit qu'il y a quelqu'un derrière un blog, il y a quelqu'un derrière un compte. Alors, je ne dis pas que je commente sur chaque publication Instagram que je vois, parce que j'en vois trop, etc. Mais j'essaie quand même de laisser pas mal de commentaires, parce que, ben, je sais pas si tu te souviens, à un moment, il y avait cette petite image que les gens mettaient dans leur sidebar, sur leur blog. Mon blog se nourrit de vos commentaires.
Oui.
Et c'est vrai. Et moi, c'est resté un peu comme ça.
Oui, puis ça donne beaucoup d'idées, beaucoup de retours et puis des encouragements aussi. Puis c'est bien, on a les nouvelles de plein de personnes, etc. Mais en dehors de l'aspect purement, on va dire, nouvelles, etc. C'est vrai que ça peut aussi donner beaucoup d'idées. Hein, moi, je le dis souvent dans les contenus que je fais. Si vous avez un commentaire à faire ou ça soit sur le podcast, mais ça peut être sur les réseaux sociaux n'importe où, des fois on se rend pas compte que un petit bout de commentaire, ça donne beaucoup d'encouragement, mais ça donne aussi des fois des idées pour dire bah tiens je peux rebondir là-dessus. Effectivement, il y a peut-être des choses qu'on explique moins parce qu'on s'en rend moins compte aussi parce que depuis le temps, t'as peut-être l'impression que enfin, on pourrait se dire d'ailleurs, dire, mais est-ce qu'elle a pas fini, est-ce que t'as pas épuisé tous tes sujets, quoi, depuis le temps? Parce que, attends, depuis 2004, ça fait 16 ans que tu écris, et il te reste encore des choses à dire. C'est incroyable, cette histoire.
Il reste plein de choses. Et tu sais, plus tu dis des choses, plus tu as envie d'en raconter. Hein. C'est une espèce de machine vertueuse. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la blogueuse éparpillée, c'est que j'ai jamais voulu me mettre dans un créneau trop restrictif. Moi, quand j'ai commencé, on appelait ça des blogs de vie. Après, il y a eu le boom des blogs de maman avec le journal Elle qui avait fait des prix, etc. Et moi, à l'époque, je parlais quand même beaucoup de mes enfants et j'avais été un peu, pas un peu vexée, mais oui, ils ne m'avaient pas mis dans le blog de maman parce que je parlais d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que ça a explosé. Et je me suis dit, mince. Et en fait, merci, merci le journal Elle, je peux le dire maintenant, plus de 10 ans après. Parce qu'en fait, j'ai pas de ligne éditoriale. Enfin, j'en ai une sur la façon dont je raconte les choses. C'est-à-dire que j'essaye de pas plomber l'ambiance, d'être toujours positive, etc. Alors, même si parfois je peux aborder des sujets un peu compliqués, mais voilà, je suis pas une blogueuse polémique, je parle pas de politique, etc. J'essaye de rendre les choses assez. Je trouve que la vie est suffisamment compliquée comme ça, donc j'essaye de raconter les choses de façon plutôt légère et positive. Mais je me suis jamais cantonnée à une seule thématique. Là, je voyage beaucoup depuis quelques années, mais je ne veux pas parler que de voyage parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, j'aurais l'impression, enfin, tourner en rond dans le voyage, c'est un peu compliqué, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais moi, j'ai besoin de parler de plein de choses. Oui, je voyage, mais j'ai aussi des ados à la maison, une grande qui fait ses études supérieures. Donc, il y a des tas de sujets, en fait. Il y a des tas de sujets. Moi, je suis inspirée par la vie que je mène et ce qui se passe autour de moi. Donc,
Oui.
non,
Et puis.
je vois vraiment pas à quel moment je pourrais manquer d'idées. Je manque de temps, ça, c'est sûr, mais d'idées, non, jamais.
Oui, puis en fait, après, quand on te suit, il y a des trucs qui sont très marrants, enfin très marrants. Après, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais quand ta fille révisait avec ses
Ah
modes
ouais.
de révision, tu partageais ça en story sur Instagram, on disait ouais, mais en fait, c'est vraiment ta vie de famille, j'ai envie de dire. On rentre dedans, donc moi après, je me dis bah, pourvu qu'elle ait eu son concours, etc. Enfin, vraiment, on a envie de suivre ça. C'est un peu le
C'est
feuilleton,
le
alors.
feuilleton, ouais, c'est ça, c'est le feuilleton. Bah, en fait, c'est drôle parce que là, c'était quand même une situation qui était compliquée. Hein. Ça a été une année très difficile pour nous, pour elle évidemment, mais même pour la famille. Hein, parce que, donc, pour résumer, ma fille a passé sa première année de médecine et elle a bossé comme une dingue. Mais vraiment, enfin, après, ils bossent tous comme des dingues, mais. Je trouve qu'on se rend pas trop compte quand on est à l'extérieur. Moi, on m'avait dit, enfin, je savais que ça allait être difficile, mais une fois que tu es dedans, tu réalises à quel point ça l'est vraiment. Donc, j'avais envie de partager sur ça, mais pas en mode, oh là là, mon Dieu, c'est trop dur ce que fait ma fille. Je me suis dit, mais il y a quand même des trucs super drôles, quoi. Cette histoire de réviser à voix haute, bon, elle a failli nous rendre dingue hein, quand même, hein, parce qu'elle parlait non-stop, on comprenait rien de ce qu'elle racontait, parce qu'elle débitait à une vitesse incroyable. Et en plus, comme elle voulait pas être gênée par le bruit, elle avait un casque anti-bruit sur les oreilles, donc elle parlait très fort. Donc oui, j'ai fait des stories sur ça, sur les post-it. Il y a des trucs. Non, alors il y a des trucs qu'elle m'a dit. Non, tu racontes pas. Alors bon, je raconte pas. Mais par exemple, avec sa coloc, elles avaient organisé des tours de vaisselle et de douche, par exemple, pour pas perdre du temps. Mais c'est des trucs totalement surréalistes, mais qui en même temps sont drôles. Enfin voilà, il faut dédramatiser un peu la situation. Elle était suffisamment compliquée et ça a été vachement dur pour elle. Et bon, et puis sa coloc et ses copines qui étaient. Enfin, voilà, c'est une formation qui est quand même. Enfin, c'est une année de concours qui est dingue. D'ailleurs, il y a le film qui est sorti l'année dernière en même temps, le film première année qui est sorti en même temps. J'ai fait aussi un post sur ça. J'ai dit, ben, nous, on veut pas le regarder, quoi. On le regardera quand ça sera fini parce qu'on est dedans. Donc, on n'a pas le. Moi, j'ai pas envie, en regardant un film, de me replonger dans mon quotidien, en fait. Et d'ailleurs, il faudrait que je refasse. Tu vois, ça me donne une idée en t'en parlant. Il faudrait que je refasse un article sur. Ça y est, on a vu première année, qu'est-ce qu'on en a pensé? Voilà, tu vois, c'est
Est-ce qu'il est
des
vrai?
trucs. Eh ben écoute, moi je l'ai trouvé très réaliste. Après, il est hyper rapide. Quand en une demi-heure, ils sont déjà au concours du mois de décembre, alors que toi, ta fille, elle a bossé pendant 4 mois non-stop. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, ça va beaucoup trop vite. C'est pas déjà le concours. Ben si, ma fille, hein, c'est un
C'est
film d'une heure
cinéma.
trente. C'est pas 8 mois et demi de révision non-stop.
Oui, mais c'est ce
Donc
que je dis sur
voilà.
les auteurs et sur les blogueurs, en fait. Tu sais, le cinéma nous présente toujours l'auteur qui, un jour, s'assoit à sa table et puis a une idée pour le roman en 3 heures ou en une nuit de travail. Et
Ouais.
alors qu'en fait, il lui a fallu des années pour arriver à écrire le premier mot, la première ligne.
C'est ça, c'est ça. Et je trouve que justement le blog ou les réseaux, c'est alors les réseaux, c'est pour l'instantané, c'est vachement bien, mais après t'as plus de traces. Et moi, c'est aussi ce qui m'embête un peu dans les réseaux, c'est que une fois que c'est publié, le temps de vie d'un post, alors les stories, n'en parlons même pas, mais c'est très très court. Alors que le blog, voilà, moi je suis retombée sur un article qui a 5 ans. Et ça m'a permis de faire un point et de me dire, ah ben dis donc, en fait, je suis toujours dans le même état d'esprit, etc. Et au début, quand j'ai ouvert mon blog, c'était aussi pour ça, c'était pour me rappeler de toutes les anecdotes de mes enfants petits. Il y en avait plein, parce que évidemment, plus les enfants sont petits, plus y a de trucs enfin, marrants ou des anecdotes, et puis on oublie vite, en fait. Donc c'était vraiment le but et donc pour ça c'est toujours d'actualité parce que je pense que mes articles sur cette année de PACES quand on le relira dans 10 ans ou dans 15 ans on rira, enfin on rira, ça nous rappellera, on aura certainement oublié des choses en fait. Donc voilà, ça fait partie de l'inspiration, mais pour moi C'est un carnet de bord, mais bon, c'est aussi un laboratoire. Hein. J'expérimente plein de choses. Mais c'est aussi un carnet de bord et un carnet de souvenirs.
Ouais.
Les voyages, c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, c'était pour me souvenir. C'était la fameuse soirée drapeau. Non, la fameuse soirée diapo chez les copains. Sauf que t'embêtes pas les copains avec ça. Ils viennent s'ils veulent et ils prennent le temps qu'il faut pour le lire, quoi.
Oui, et puis alors, ce qui est marrant, c'est que en faisant ça, à un moment donné, ça bascule et finalement, ça devient ton métier. Et tu vois, c'est là où j'en reviens à mon histoire de citation, parce que dans un de tes billets récents, tu dis, niveau professionnel, pas mal de choses aussi, nouveaux contrats en freelance, des propositions intéressantes pour le blog. Et tu dis, je mesure chaque jour ma chance de pouvoir travailler à mon compte, je le répète souvent, mais j'en suis tellement reconnaissante. Et justement, c'est comment un blog qui est au départ un passe-temps, on pourrait dire, ou en tout cas ton carnet que tu as envie de partager, devient finalement quelque chose qui est ton métier, puisque est-ce que, alors je sais pas, je sais pas si c'est ton métier, on va pas dire à 100% parce que tu parles de contrat de freelance, mais ça fait partie intégrante finalement de ton métier, de ton travail, quoi.
Alors le blog, depuis quasiment le début, c'est 50% de mes revenus. Les autres 50%, c'est la production de contenu. Donc au début, c'était beaucoup d'éditorial pour d'autres clients, en fait, pour des marques, des institutions, des sites web, etc. Donc au début, je faisais beaucoup de rédactionnel. C'est là où on s'est connus d'ailleurs, quand on avait travaillé pour Fresh and Fashion.
De Monoprix, voilà.
Monoprix, voilà. Donc là, à l'époque, c'était vraiment du rédactionnel. Et puis, au fur et à mesure, il y a photos, vidéos, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je fais de la création de contenu. C'est un peu fourre-tout, ça veut tout et rien dire, mais ça représente quand même bien mon activité. Donc, pour en revenir à ta question, parce que je suis partie. Donc, 50% de mes revenus, c'est le blog. C'est un chiffre qui est à peu près stable. Chaque année, je fais des bilans. En fait, je regarde un petit peu. Et cette année, ça se profile aussi comme du 50%. Donc, j'ai commencé en 2006. En 2008, les blogs ont vraiment commencé à exploser. On a eu nos premières propositions de partenariat, billets sponsorisés, etc., etc. Et moi, en 2008, fin 2008, mon petit dernier a eu 3 ans. Donc, c'était la fin de mon congé parental. Et entre-temps, j'avais été licenciée économique de mon entreprise, en fait, là où je faisais du référencement dans mon agence web. Et oui, parce qu'on peut être licencié économique quand on est en congé parental, ça je ne le savais pas, et puis bah, je l'ai découvert. Mais en fait, c'est une très bonne chose. Sur le moment, tu fais un peu la grimace, mais finalement, c'est pas plus mal. Donc moi, je me suis retrouvée début 2009 au chômage. Mais avec des propositions de collaboration et surtout ce truc génial qui arrive au mois de janvier, le statut d'auto-entrepreneur. Je dis souvent, mais c'est vrai, moi j'étais là au bon moment et au bon endroit en fait. J'explique un peu, parce qu'on me dit mais comment t'as fait, etc. Je dis mais en fait, il y a eu plein de concours de circonstances qui ont fait que c'était le bon moment pour moi pour me lancer. Parce que j'avais rien à perdre. De toute façon, j'étais au chômage. On me proposait du boulot, des piges, etc. Aussi des publications sponsorisées sur mon blog. Et j'avais la coquille réglementaire pour le faire sans prendre de risque. Je me serais jamais lancée en indépendant avec des charges énormes, etc. Une comptabilité compliquée, parce que c'est vraiment pas mon truc. Là, auto-entrepreneur, je me suis dit, mais attends, mais c'est génial, je vais tester. Et en fait, ben, 15 ans après, non, 10 ans après, 10 ans après, je suis toujours auto-entrepreneur et ce statut me convient toujours. Alors bon, il a ses défauts, hein, mais pour avoir testé la société, la SAS pour Wonderful Braise, voilà, non, auto-entrepreneur, c'est pas mal, en fait. Voilà. Donc voilà, donc moi je me suis lancée comme ça parce que j'avais la disponibilité et j'avais les propositions en fait qui arrivaient parce que du coup en 2008-2009 mon blog avait une certaine visibilité, une bonne visibilité déjà. J'avais eu des articles dans la presse, j'avais participé à un festival de blog, le festival de romans qui était en 2008
Ouh là,
où j'avais,
effectivement, oui, ce
tu
fameux
vois,
festival de romans, oui.
voilà, deuxième édition, deuxième et dernière édition. Et où j'avais eu un prix, j'avais eu le prix du coup de cœur du jury. Donc voilà, tout ça avait fait que j'avais une certaine visibilité. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais dans la place, donc les gens pouvaient voir ce que je savais faire et comment je le faisais. Et donc voilà. Et donc, je me suis lancée et je ne l'ai jamais regretté. Il y a eu une petite interruption l'année dernière parce que j'arrivais pas forcément à la fin d'un cycle, mais il y avait des choses qui me pesaient un petit peu. Et puis, j'avais la perspective de ma fille qui partait en études supérieures. Donc, c'est pas que j'ai flippé, mais est arrivée une proposition de poste salarié dans une entreprise. Et sur le papier, c'était génial. En fait, tout était parfait. C'était à côté de chez moi. C'était dans une équipe cool avec un boulot plutôt sympa. C'était de l'animation de contenu pour les clients de l'agence et aussi un peu de suivi de projet de création de site internet pour l'agence pour laquelle je travaillais. Et donc, je me suis dit, bon, c'est le moment, en fait, non pas de raccrocher, mais de continuer le blog et les réseaux de façon je trouve
plus
pas le terme.
Dilettante, ouais, un peu plus cool.
Voilà, en dilettante, ne pas avoir cette pression de la rémunération et puis redevenir salarié. Bon, l'histoire a fait que ça ne l'a pas fait parce que quand une fois que tu as goûté à ta liberté, c'est très compliqué en fait de retourner dans un bureau et d'être 8 heures par jour face à ton écran et voilà, ça a été une super expérience parce que justement ça m'a permis de refaire le point, de remettre les compteurs à zéro et de voir tout ce que mon métier avait de génial et c'est vrai que les petits côtés embêtants avaient fini par prendre le dessus, mais c'est pour ça que je dis que j'en suis reconnaissante parce que tous les jours depuis que j'ai arrêté donc ce poste et que j'ai repris ma vie de freelance, tous les jours en fait je savoure tous les chouettes côtés. Et les à côté un peu casse-bonbons comme la facturation, les impayés des clients, etc. Je me dis oui, c'est vrai, mais à côté de ça, j'ai la liberté et ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment ce qui me convient, c'est aligné à ce que je suis. Et alors quand on dit je suis aligné à mes valeurs, justement, je n'aimais pas de notion de valeur parce que c'est très bien d'être salarié si ça te convient. Je crois même, enfin, non, je dis que c'est plus confortable, non, parce que je le dis en tant que freelance, mais il y a des salariés qui rêvent peut-être de passer de l'autre côté aussi. Donc, je n'ai pas de jugement de valeur justement là-dedans, mais moi, je me rends compte que c'est vraiment la vie que je préfère et qui c'est justement toute cette variété et cette liberté qui permet de garder ma créativité grande ouverte.
Bon, tu sais, moi je dis qu'on a tous une tartine de merde, hein, et quel que soit le métier que tu fais, de toute façon.
C'est ça.
C'est vrai que quand t'es freelance, quand t'es indépendant, il y a toujours une partie que les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils voient que finalement, c'est cool, tu voyages, t'es invité à droite à gauche, j'allais en parler, mais t'as fait du bateau sur Sodebo, des choses comme ça, tu dis, waouh, ouais, c'est génial, etc. Et à côté de ça, et à côté de ça, on voit pas que effectivement, t'as un côté, faut faire ta facturation, des fois t'as une incertitude. Tu sais pas trop comment ça peut évoluer sur certaines choses, que des fois quand t'es freelance t'as des trucs à rendre et que tu peux être vraiment très charrette et donc ça perturbe un petit peu tout, que la moindre perturbation finalement elle prend des fois aussi ça va très vite, hein, des fois de que ça déraille, des choses comme ça, etc. Les gens, on voit toujours le côté génial d'un côté, on oublie que de l'autre côté il y a des choses qui sont plus compliquées, mais un salarié aussi finalement, hein, il peut c'est chiant d'aller tous les matins à 8h au bureau et d'en partir soir à 17h. Ce qu'il oublie juste, c'est que des fois, il a un salaire confortable sans même se poser la question de savoir d'où vient son salaire. Et pour certains, c'est un confort, hein, je le dis. Hein, Et moi, j'écris en ce moment, j'ai fait des recherches sur des écrivains, par exemple, qui ont décidé de toute leur vie d'être salariés pour ne pas avoir la préoccupation de savoir comment gagner leur vie et que ça leur libérait l'esprit, tu sais. Et je parle d'un collègue notamment qui faisait ça, t'as l'impression qu'il avait un boulot qui était routinier, etc. Sauf que il arrivait tous les matins à la même heure, il partait tous les soirs à la même heure, et ça lui donnait un temps libre, tu vois, sans se poser de questions quoi que ce soit, pour faire ce qui lui plaisait vraiment, c'est-à-dire aller voir des concerts, tout un tas de trucs, tu vois, à côté. Et finalement, lui, il trouvait son bonheur là-dedans. Sa tartine de merde à lui, c'est que des fois, il avait le chef qui pouvait débarquer, qu'il trouvait pas très sympa, et il voyait ce côté-là, il dit, tant pis, je passe par là. Mais à côté de ça, j'ai les trucs positifs. Et je pense que les gens, tu vois, quand on connaît pas, on le voit pas trop. Alors, on peut essayer de limiter la tartine de merde. Moi, c'est, tu vois, ton exemple de l'auto-entrepreneur, je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, c'est un statut qui est léger. Moi, mon choix, c'était de partir. Moi, je travaille en CAE, hein, coopérative d'activité. Bon, ça me fait des frais qui sont beaucoup plus élevés, mais à côté de ça, j'ai un contrat salarié, tu vois. Bon, finalement, même si c'est moi qui paye toutes les charges salariales et patronales, donc autant dire que ça fait un volume de charges qui est mastoc.
Non négligeable. Ouais.
Les gens se rendent pas compte, hein, juste que non. Quand tu gagnes un, il faut facturer deux voire trois des fois. Si on rajoute les taxes, etc. Mais à côté de ça, ça fait un confort. Et puis moi, j'ai fait ça parce que c'est une comptable qui fait ma TVA, qui fait tout ça, tu vois. Je me suis débarrassé de toute la partie administrative. J'ai juste à faire ma facture et tout le reste, c'est elle qui s'en occupe. Et ça limite en grande partie ce problème administratif. Toi, tu le règles avec un statut auto-entrepreneur qui est vrai, qui est beaucoup plus léger que... avec ma femme aussi, on était en SARL. Non, on n'était pas SAS, tu vois, mais... Bon, bref, ça fait partie des statuts où il y a tout un tas de contraintes, etc. Mais les gens se rendent pas trop compte, en fait, en disant ça doit être cool ta vie parce que tiens, j'ai vu tu faisais du patchwork, tu fais de la, attends, t'as fait de la couture dans la journée hier, c'est quoi cette histoire, quoi.
Non, mais c'est ça, c'est vrai. Moi, je trouve, tu vois, moi j'ai pas de visibilité, par exemple, j'ai pas de visibilité à 3 mois. Je sais pas dans 3 mois quels seront mes revenus. Alors après, je tempère tout ça. Voilà, moi, je suis en couple, hein, donc mon mari est en CDI, il gagne sa vie correctement. Alors, son salaire ne suffit pas pour une famille de 5, dont avec 3, enfin 2 grands, dont une grande, voilà, qui fait ses études dans une ville éloignée de la nôtre. Mais donc, il faut que je ramène les sous. Hein. C'est pas, je suis pas non plus, je suis pas desperate housewife qui se fait plaisir sur les réseaux. Mais voilà, j'ai pas de visibilité à plus de 3 mois. Enfin, si, là, je viens de signer un contrat freelance sur 12 mois, donc c'est exceptionnel. C'est la première fois que ça m'arrive en 10 ans. Donc je suis très contente, mais non, il faut avoir cette notion-là. Tu parlais de charrette, et ben écoute, la semaine dernière, j'avais un article à rendre, un très gros article à rendre, et pas de temps disponible pour le faire. Il y a 2 soirs où j'ai travaillé jusqu'à 3h du matin, et parce que le vendredi matin à 8h, il fallait que j'envoie mon article, et je l'ai fait. Et attention, je me plains pas, ça fait partie de ma vie, mais à côté de ça, bah ouais, hier à 15h30, avec ma fille, on est allé finir la journée à la plage. Voilà, bon, bah c'est. Et en fait, l'année dernière, tout ce qui me pesait vraiment, c'était tout ce qui était administratif, la relance de paiement, l'incertitude quant au revenu à plus de 3 mois. Donc ça, c'est, tout d'un coup, c'était devenu pesant. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais je pense que bah, voilà, tout, peut-être un peu de lassitude et puis la perspective de voir sa fille partir de la maison. Mais après avoir fait 4 mois en salariat et être revenue au freelance, ben, je me dis oui, bien sûr, comme tu appelles ça, la tartine de merde, elle existe toujours, mais j'ai réussi à revaloriser en fait tous les à côté positifs et que j'adore et qui pour moi finalement sont plus importants que la stabilité et la vision à long terme.
Quand tu dis que tu fais du freelance, en fait, tu fais donc de la création de contenu au sens large. Est-ce que tu as un travail de démarchage ou finalement, est-ce que maintenant ton blog te permet d'attirer suffisamment de monde, de clients potentiels ?
Alors, depuis le début, je n'ai jamais démarché. J'ai eu cette chance-là aussi. C'est une chance énorme. J'ai jamais eu à démarcher parce que la visibilité du blog a fait que on contacte souvent pour créer du contenu. Alors souvent c'est sous forme de sponsorisation sur mes réseaux, puisque les gens en fait utilisent cette visibilité là pour faire de la promotion pour leurs produits, leurs services, etc., ou leur destination. Après j'ai aussi du coup je suis connue dans les agences depuis les agences de com à Paris et ailleurs. Je suis connue depuis 10 ans, donc quand il y a de la création de contenu en marque blanche, c'est-à-dire pas en tant que Céline Dupont ou pas en tant que Merci pour le chocolat, ils font appel à moi parce que sur tel projet, ils ont pensé que mon style, la façon dont je travaillais correspondait, etc. Donc ça, c'était jusqu'à l'année dernière. Et là, cette année, d'avoir travaillé en fait dans une agence locale, une agence web, alors pas une agence de communication, vraiment une agence de création de sites internet, de façon très amusante, ça m'a ouvert plein de portes et donc j'ai travaillé pas mal cette année et je continue pour des entreprises locales. Donc alors là, je ne sais pas du coup si c'est le blog qui les attire ou si c'est le fait d'avoir travaillé pour cette agence. Je ne sais pas, je n'ai pas encore assez de recul, voir si c'est une tendance de fond ou c'est juste là maintenant, ou le hasard aussi, parce que enfin, je ne sais pas si ça fait comme ça pour toi, mais j'ai remarqué qu'il y a des cycles en fait dans nos activités. Au début, je faisais beaucoup d'éditorial, après, il y a eu un moment où c'était beaucoup de photos, et puis après. Beaucoup de, enfin beaucoup, un peu moins, mais de la vidéo. J'ai animé des ateliers aussi, mais à chaque fois, c'est des périodes, en fait. Il y a des tendances qui se dégagent, voilà, même au niveau des contrats. À un moment, c'était par exemple les thalassos. Pendant un an, j'ai bossé beaucoup avec les thalassos. Plus maintenant, parce qu'ils ont changé leur truc. Et puis, en fait, quand les gens voient ce que tu fais, ça leur donne envie de faire appel à toi pour faire des choses un peu similaires. Globalement, les gens, donc quand j'appelle les gens, c'est les clients, les marques, les agences, etc. Ils ne sont pas très aventuriers. Ils ne sont pas toujours en train de révolutionner le truc. Donc, quand ils voient que quelque chose a bien fonctionné, ils essayent de le dupliquer en l'adaptant, bien évidemment. Voilà. Donc, je sais que si le jour où j'ai fait un atelier, ben ça, voilà, ça a bien fonctionné. Ben, dans les 6 mois qui ont suivi, j'en ai fait deux autres. Alors, j'en avais jamais fait avant, et puis depuis, j'en fais plus, tu vois. Mais voilà, c'est un exemple.
Oui, puis après, c'est
Ah
vrai que ça appelle un petit peu, parce que les agences aussi, elles travaillent à plusieurs, des fois elles ont des réseaux aussi, elles se passent un petit peu les noms.
oui.
Moi,
Ouais.
ce qui était assez marrant, c'est qu'il y a une année, j'avais été repéré par mon blog sur une thématique sport, tu vois, par une agence,
Ouais.
et qui m'a fait écrire, mais aussi sur des thèmes bancaires, prêts, etc. Mais juste parce qu'en fait, c'était le même chargé de projet, tu vois, qui, à un moment donné,
Ouais.
il me fait rentrer dans un truc. Il dit, bah, on a vu comme t'écris, ça nous intéresse pour telle thématique, mais tu serais pas disponible aussi pour telle thématique. Alors, je dis, bon, allez, on peut y aller. Et au final, je me suis retrouvé à écrire peut-être presque 50 articles, tu vois, sur une thématique banque, etc. Et puis un jour, il m'a dit, ah, mais attends, tu sais faire ça en banque, tu pourrais pas faire ça en, alors c'était quoi, en isolation, tu vois. Attends. Bon, allez, hop, on va faire de l'isolation et tout. Et puis à un moment donné, il revient et puis il me dit, ah, bah, tiens, hop, on va te remettre sur le sport, parce que finalement, on a de nouveau du sport. Et puis tout d'un coup, tu vois, donc il y a eu plein de trucs comme ça, et puis ça s'arrête. Hop. Alors peut-être aussi parce que les contacts, ils s'en vont, parce qu'il y a des projets qui s'arrêtent. Puis aussi, je pense qu'il y a des. Alors là, on se rend pas compte, c'est qu'il y a des agences aussi qui mettent énormément d'argent, ou des clients des agences qui mettent beaucoup d'argent dans des projets. Et je pense que des fois aussi, ça, il y a des. Ils s'y retrouvent pas du tout.
Et ils arrêtent.
Moi, quand je vois le prix auquel sont facturés certains des articles, et je me rappelle de l'époque de Monoprix, hein, le prix auquel on facture un article, et quand tu vois sur Textbroker et toutes les. Tous les sites de rédaction de contenu qui cherchent du rédacteur SEO, on se dit il y a une telle marge entre les deux que effectivement et pour certains cas ils doivent se demander aussi si bah, mettre des centaines d'euros dans du contenu tous les mois etc. qu'est-ce que ça leur rapporte et donc peut-être il y a des projets comme ça qui s'arrêtent qui c'est le cas de
S'arrête, oui,
Monoprix
tout
hein, qui
à
s'est
fait.
arrêté au bout de 3 ans je crois hein, ça avait duré cette
Oui,
histoire-là.
ça a dû durer 3 ans, ouais.
Ouais, avec une réduction de la voilure au bout d'un an, parce que ça marchait pas, et puis finalement ça même plus marchait du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des cycles, etc. Et le cycle, comme tu dis, moi par exemple actuellement la rédaction de contenu pour des agences, j'en fais mais plus du tout. Alors là vraiment ça a disparu. Alors que j'avais plusieurs agences qui m'avaient contacté. Mais c'est pareil aussi pour les médias. Je sais pas si t'as remarqué aussi, mais ça je sais pourquoi ça fonctionne, c'est que quand tu apparais dans un média, en général les autres, comme ils disent les autres médias, ils finissent par te retrouver, tu sais.
C'est ça.
Alors, tu passes dans le journal local, tu te retrouves à la radio, puis après, tu vas te retrouver sur France 3, etc. Et puis, t'as une espèce de boucle. Et puis, une fois que tu les as un petit peu fait dans les 3-4 mois, ben, d'un coup, boum, ça s'arrête.
Et ça repart
Et
après.
ça
Non, mais
repartira dans
c'est.
quelques temps, mais t'as du mal à y revenir parce que finalement, je dis, ouais, mais attends, on a parlé de toi l'an dernier déjà, quand même. Faut pas exagérer, quoi.
Ouais, mais c'est ça, il y a des cycles. Et ce que tu dis sur les agences, c'est très vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de turnover dans les agences. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais moi, je sais que j'ai été contactée par la même personne plusieurs fois, mais cette personne avait changé d'agence. Et en fait, les gens partent avec leur carnet d'adresses. D'ailleurs, c'est un peu ce qui fait leur valeur ajoutée, c'est ce qu'ils valorisent aussi beaucoup. Et donc, ils font appel à toi. Voilà, donc des gens avec qui j'ai travaillé en 2008, 2009, 2010 peuvent me faire appel à moi maintenant sur des projets ponctuels, etc. Et depuis d'autres agences, en fait, avec d'autres étiquettes, on va dire. Et puis, alors, ce que tu dis sur le rédactionnel, c'est amusant parce que moi, j'en ai pas fait pendant un moment. Et là, de nouveau, je recommence à en faire. Et pareil, et en fait, c'est là, je viens de terminer un gros contrat éditorial avec la toute première agence qui m'a fait bosser en 2009. Enfin, la toute première agence, oui et non, parce que l'agence a changé, mais les filles derrière, ce sont les mêmes. Et donc, voilà, et c'était vraiment mon tout premier contrat, et donc j'ai trouvé ça amusant. Donc, c'est quelque chose que je fais pas forcément, enfin, même le rédactionnel pur et dur, c'est pas forcément quelque chose qui m'éclate. Parce que enfin, ça manque un peu de. Enfin, c'est pas que ça manque de créativité, mais c'est très cadré en termes de nombre de caractères, etc., de découpage et tout. Donc, c'est pas forcément un exercice dans lequel je m'éclate ou même. Enfin, je perds vite confiance en moi, en fait. Mais là, je l'ai fait parce que voilà, c'était un petit clin d'œil au passé. Et puis, je trouvais ça sympa. Puis la thématique était vraiment chouette. C'était sur le tourisme. Donc voilà, ça me parlait bien. Mais oui, comme quoi, il y a des cycles, on y revient. Et c'est ce que j'aime aussi, moi, dans mon métier, c'est que, ben oui, de ne pas avoir de visibilité, ça veut dire que ça laisse la porte ouverte à tous les possibles. J'ai fait des trucs, enfin, on m'aurait dit 6 mois avant, tu vas faire une vidéo pour les Bahamas. Déjà, j'aurais flippé complètement. J'aurais dit non, mais moi, je peux pas, ça va pas, je sais pas faire. Enfin, eh ben si, en fait, il y a plein de choses comme ça. Animer un atelier, comment moi parler face à 25 personnes que je connais pas, leur apprendre à faire des recettes de cuisine alors que, enfin, je vais tuer le mythe, mais à la maison, c'est pas moi qui cuisine, c'est mon chéri. Quoi, mais je sais cuisiner, hein, mais c'est juste que j'ai un peu la flemme. Donc, je mets des recettes sur mon blog de temps en temps, bah, justement pour garder une trace et on les refait après. Donc voilà, donc ça ouvre vraiment le champ des possibles et c'est ce que j'aime en fait dans mon métier et c'est ce qui m'angoissait aussi beaucoup dans ce poste de salarié où en fait quand j'ai fait mon bullet journal pour l'année à venir, j'avais des espèces de crises d'angoisse en fait parce que je savais que de telle date à telle date j'étais au bureau et pas potentiellement à l'autre bout de la terre ou chez moi ou enfin voilà. C'est
Alors
c'est
oui,
particulier, mais
ouais.
bon, voilà.
T'as parlé des Bahamas, mais t'as pas voyagé qu'aux Bahamas parce que si on suit tes aventures sur ton blog, on voit que t'as fait d'autres destinations. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que t'as autant voyagé finalement à l'autre bout du monde que en ce moment, j'ai l'impression, hein, c'est des contrats et tu voyages plutôt localement dans les
Ouais.
régions, donc peut-être en
Ouais.
Moselle, des choses comme ça.
Oui, Moselle, là, ça, il y a 10 jours, ouais.
Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu dis que finalement, on t'a demandé de faire de la vidéo. Et si les gens regardent ta chaîne YouTube, ils vont se rendre compte que tu n'as que 154 abonnés sur ta chaîne YouTube. Et je pense que ça casse un mythe, mais qui est énorme, c'est que les gens disent qu'il faut que j'ai des milliers d'abonnés pour qu'on s'intéresse à moi, faire des choses. Et toi, on arrive dessus, on voit que t'es alors un crocodile au Club Med à Cancun, on voit des trucs comme ça, vas-y, et on
Ah
voit à
oui,
côté 154 abonnés.
c'est ça. Bon alors il y a une explication hein, quand même. Il y a une explication. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, donc je me souviens très bien, c'était en 2013. Je suis un peu mamie à raconter mes anecdotes avec des dates, hein, mais je me souviens en ce temps-là. Non, en fait, en 2013, ce qui s'est passé, c'est que en tout début d'année, au mois de janvier, alors il y a en mois de janvier pour les freelances dans le monde du blog, etc. C'est toujours une période hyper creuse. Hein. Tu te dis ça y est, il y a plus d'activité, mon métier est mort, voilà, c'est foutu, ça repartira plus jamais. Et en fait, chaque année, ça repart. Et effectivement, fin février, début mars, c'est reparti pour un tour. Mais janvier, c'est toujours très calme. Et en 2013, j'ai perdu deux gros contrats récurrents. Et donc je me suis retrouvée vraiment, j'avais plus rien quoi. Et j'avais juste mon blog entre guillemets, donc que je continuais à alimenter, mais j'avais pas de rémunération prévue. Et comme j'avais du temps, je me suis dit ah ben j'avais envie de faire de la vidéo parce que ça commençait un petit peu à émerger. J'avais des copains qui faisaient des vidéos super belles et tout, et je me suis dit ah mais en fait moi je fonctionne comme ça. Quand je vois un truc qui me plaît, je me dis ah mais je veux faire pareil. Et donc j'apprends. J'apprends ben, petit à petit hein, en mode autodidacte. Alors souvent ça a ses limites, mais voilà, quand tu as du temps, c'est pas mal. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos. Mais à l'époque, YouTube, en 2013, le l'encodage, enfin, comment dire, la plateforme, la qualité de l'image était vraiment dégueu. Puis je trouvais que c'était moche, en fait. YouTube, c'était vraiment moche. Du coup, je suis allée sur Vimeo.
Oui.
Et donc, j'ai posté toutes mes vidéos que j'ai faites à partir de ce moment-là, je les ai mises sur Vimeo. Les gens n'allaient pas sur Vimeo, mais ils voyaient les vidéos Vimeo sur mon blog. Et donc, les vidéos étaient vues. Elles étaient vues entre 1500, 2000 fois, etc. Mais Vimeo, c'était très joli, mais avec un très mauvais référencement. Donc, une fois qu'elles étaient vues sur mon blog, c'était terminé. Les gens n'allaient pas, ne les trouvaient pas sur Vimeo. Et puis, il y a eu le boom de YouTube. Et là, je me suis dit, c'est encore un peu dommage. Donc, du coup, j'ai reposté, en fait, mes anciennes vidéos qui avaient le mieux marché sur Vimeo. Enfin, sur Vimeo, sur le blog, je les ai mis sur YouTube. Donc, il y a certaines vidéos qui ont été vues 30 fois sur YouTube parce que je ne les ai pas republiées, enfin, je les ai publiées, mais je n'ai pas communiqué au-dessus. Alors que si tu retrouveras la même sur Vimeo, où elle a été vue 2000 ou plus. Et du coup, au bout d'un moment, j'avais toutes ces vidéos, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire une chaîne YouTube. Mais je te parle de ça, c'était il y a 2 ans. Donc déjà, où il y avait des Enjoy Phoenix à 3 millions ou 4 millions d'abonnés. Oui. Donc c'est totalement ridicule. Mais en même temps, j'ai jamais capitalisé là-dessus parce que ce sont des vidéos qui ont été déplacées ou qui sont vraiment très particulières et qui ne correspondent pas aux standards de YouTube. Je ne fais pas de vlog face cam, je ne fais pas... je fais pas de grandes vidéos pendant 45 minutes où je raconte des choses... C'est pas un support qui m'intéresse. Enfin, le face cam, c'est vraiment pas un truc qui me plaît. J'en fais un petit peu en stories et encore un minimum. Donc je me vois pas capitaliser là-dessus sur mon blog. Enfin, en plus, ça prend du temps, quoi. Donc autant que faire des choses qui me plaisent. Donc voilà. Ce qui explique pourquoi j'ai 150 abonnés, c'est ce qui. Et pourquoi il n'y en aura certainement pas tellement plus. Après, les vidéos, elles sont vues en tant que telles. Je les mets maintenant aussi sur Facebook. Sur Facebook, elles sont beaucoup plus vues que sur YouTube. Donc voilà, parce que c'est plus facile, en fait, c'est plus viral.
Ouais. Et puis, ce qui etc. peut rassurer les gens, c'est aussi que tu as quand même une vidéo, par exemple, Backdance 2018, 21 000 vues. Avec 154 abonnés, on a dit.
Donc, oui, voilà.
Ce qui décorrèle totalement, parce que les gens s'en rendent pas compte, le nombre de vues d'une vidéo n'est pas du tout corrélé au nombre d'abonnés de sa chaîne, en fait.
Ça n'a rien à voir.
Il y a des notions de référencement, de tous les algorithmes à l'intérieur de YouTube qui font que, on voit déjà certaines personnes qui ont beaucoup d'abonnés et qui ont des vidéos à 60 vues. Et moi, qui ai que 600 abonnés, j'ai 60 vues sur mes vidéos, en moyenne. Mais des fois, il y en a une qui fait 21 000, 22 000, 23 000, etc. Et à côté de ça, t'en as une qui fait que 28 vues. Et on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et ça vient souvent, en fait, il y a un petit truc dans les algorithmes, ça peut être une question de titre qui est pas optimisé, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça.
Ouais, ou thématique qui tout d'un coup, je sais que la vidéo dont tu parles, elle a à peine un an, puisque c'était le bac de ma fille, donc c'était il y a pile un an. Et moi, je vais très rarement sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube, même quasiment jamais. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait 21 000. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, et en fait, oui, parce que les gens ont cherché des vidéos, des inspirations pour le bac, danse, ou je sais pas, et ils sont tombés dessus. Et voilà, mais c'est amusant. Donc, c'est pas du tout corrélé, comme tu dis, au nombre d'abonnés. Voilà, j'ai fait aussi une vidéo, je crois, sur la façon de plier les raviolis chinois, parce que ma belle-sœur est chinoise et elle était venue à la maison, elle nous avait montré, j'avais filmé. Et pareil, je l'avais posté sur Vimeo, ça avait fait 800 vues ou 900 vues. Et là, sur YouTube, y a beaucoup plus, je sais plus, mais je crois que c'est 7000 ou un truc comme ça, je sais plus trop.
Donc, si je te demande la recette magique pour avoir un contenu qui marche, soyons clairs, on l'a pas, quoi.
Non, on l'a pas. Moi, je suis surprise, je suis hyper surprise. En plus, non seulement on l'a pas, mais elle varie d'un support à l'autre. Sur le blog, moi, j'ai un article qui cartonne depuis presque 10 ans. J'ai coupé les commentaires. Parce que j'en pouvais plus de recevoir. J'ai fait un article sur l'URSSAF. Parce que au début, on parlait du statut auto-entrepreneur, mais ça a quand même été un peu chaotique avec l'URSSAF. Et j'ai eu vachement de soucis avec l'URSSAF. Et donc, j'avais fait un article, l'URSSAF, comment l'URSSAF m'a tué, tu vois. Le titre, super, quoi. J'étais un peu énervée ce jour-là, donc voilà, etc. Et cet article, je crois qu'il a été vu 300 000 fois. Enfin, c'est un truc de dingue, parce qu'en fait, à un moment, dans Google, quand tu tapais URSSAF, j'arrivais en troisième ou quatrième. Donc, et puis, je pense que des gens avec des problèmes à l'URSSAF, il y en a plein, et donc ils tombaient dessus. Et donc voilà, donc, mais jamais, enfin tu vois, c'est à 1 000 lieues de ma ligne éditoriale, jamais quand je l'ai écrit, je pouvais penser que ça ferait ça. Pareil, j'ai repeint mon buffet en pain IKEA. Tu parles d'un truc sexy? Eh ben non, bah celui-là, il cartonne depuis des années, il est bien référencé sur Google, je pense que Google Images aussi, mes photos en fait ressortent facilement. Et donc c'est pareil, et ça date de... Ça date
Alors,
2013,
ouais,
enfin, c'est...
d'après ta chaîne YouTube, ça a même 5 ans, hein, puisque 2010, ouais, sur ton blog, tu en parles en 2010 même, tu vois, des bureaux d'angle, etc. Donc,
Ouais, c'est voilà, c'est un truc de dingue, tu sais pas. Sur Pinterest, j'ai une photo qui cartonne. Ce sont des sucettes pour les anniversaires, en fait, des sucettes faites avec des pirates, avec des chamallows, etc. Et donc, il y a une photo qui cartonne sur Pinterest et qui me ramène plein de monde sur le blog, du coup. Mais moi, quand j'ai fait ce truc-là en 5 minutes, je pouvais pas imaginer que ça prendrait ces proportions. Et à contrario, des fois, tu fais des articles en te disant, oh là là, j'y mets tout, enfin, j'y mets tout mon cœur, j'y mets toujours tout mon cœur, mais tu dis, oh là là, mais ça va être génial et tout, ah vraiment, j'y crois à mort, et en fait, bah, pas du tout, ça, enfin, ça fonctionne comme d'habitude et ça retombe dans les méandres d'Internet. Mais donc non, pour moi, il n'y a pas de recette. C'est pour ça que je dis souvent que mon blog aussi, c'est mon petit laboratoire, parce que je teste plein de trucs, je le fais selon mes envies, en fait. Et comme j'ai pas d'objectif, je me fixe pas d'objectif chiffré. J'ai pas cette pression-là qui peut être ce qui est différent pour une entreprise en fait, où l'idée c'est quand même, oui, tu veux améliorer ta visibilité, tu veux faire venir des gens sur ton site ou ton blog ou toi, tes réseaux, mais la finalité c'est d'arriver à avoir plus de contacts ou vendre, etc. Moi c'est pas mon cas en fait. Moi je vends mon image, oui. Mais elle est un peu décorrélée de tout ça. Donc, ben, en fait, moi, je teste plein de choses. Je fais vraiment selon l'envie du moment. Souvent, j'ai des bonnes surprises. Parfois, ben, des surprises. Enfin, pas de surprise, justement. Ça fonctionne pas trop. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà. Donc, non, il n'y a pas de recette. Et puis, ce qui fonctionne sur Instagram ne fonctionnera pas sur Facebook et vice-versa. Sur le blog, enfin, voilà, si j'avais fait un post Instagram sur l'URSSAF, ça m'étonnerait que j'ai 300 000 personnes qui likent ma photo.
Alors peut-être que sur l'instant il l'aurait eu, mais comme il serait tombé dans les méandres, maintenant il
C'est
aurait
ça.
totalement disparu. Alors que
C'est
finalement,
ça.
si on tape sur Google URSSAF m'a tué ou problème URSSAF ou je sais pas quoi, effectivement
Ouais.
tu remontes et tu peux remonter encore pendant des années.
Ouais.
Moi tu sais, un de mes articles les plus populaires sur mon blog, c'était l'histoire des anticernes, des
Ouais.
thèses d'anticernes pour hommes. Et vraiment, je l'ai fait comme ça, ce truc, etc. À l'époque où je testais des produits de beauté.
Oui, mon
Et
blog
ça
de
fait,
mec.
ouais, ça fait des années que je ne n'utilise plus d'anti-cerne parce que j'ai découvert que le meilleur anti-cerne, c'était le sommeil, donc
Ben
dormir.
oui, en fait.
Et ouais. Donc que l'industrie de la cosmétique nous mentait depuis des années, etc. Et qu'il suffisait de dormir et nous acheter un oreiller. Et ben même, et je pense il doit avoir 10 ans, hein, cet article, grosso modo, il doit avoir 10 ans et il est transféré son blog qui a changé de nom, qui est plus mon blog de mec, mais c'est toujours, toujours l'article le plus populaire de tous.
Ouais.
Or, il n'y a plus de commentaires parce que j'ai fini par couper les commentaires parce que j'étais
Ouais, pareil.
spammé sur les commentaires. Il y a des ceux qui se rendent compte que finalement il y a du trafic à faire, ils essayent de venir mettre des liens, des backlinks, etc. Ces petites
Ouais.
joyeusetés du blog qu'on adorait tant quand les blogs se sont lancés, mais que certains ont dévoyé. Et tu peux faire tout ce que tu veux, t'as l'impression que de toute façon les gens ils arriveront toujours, toujours, toujours sur ces contenus-là.
Ouais.
Mais à côté, c'est une belle porte d'entrée, ce qui veut dire que c'est aussi à nous, hein, de trouver des moyens de. Alors peut-être que toi sur l'URSSAF, c'est pas trop les gens que t'as envie d'avoir d'attirer. Mais peut-être dans certains cas, on a des contenus, on pourrait se dire, bah moi dans mon histoire des anticernes, je pourrais les envoyer sur mes méthodes sur comment j'ai rééquilibré ma vie en dormant plus, etc. On peut se dire que c'est aussi une porte d'entrée, hein, comme une autre. Ceux qui pensent que la page d'accueil de son blog est la page la plus importante, il faut se rappeler quand même que toute page de son blog est une landing page en tant que telle, donc on peut atterrir dessus.
Ouais.
Et à nous, quelque part, hein, de dire, bon, bah, tant pis, hein, j'en prends mon parti, je vais essayer de les pousser vers autre chose et leur, essayer de leur montrer aussi que, ben, je fais pas que dégueulante ou que je fais d'autres choses, etc. Mais c'est intéressant parce que cette recette-là, c'est vrai, enfin, clairement, on l'a pas. Moi, j'ai des vidéos qui, j'ai faites comme ça à l'arrache qui ont beaucoup de succès, d'autres qui sur lesquelles j'ai mis plus d'ambition, on va dire. Et attention, je suis très mesuré avec ce mot ambition sur YouTube, vraiment ne décolle pas, quoi.
Ouais.
Je pense qu'après il doit y avoir des facteurs aussi dont on se rend pas compte, hein. Je pense que tu sais, sur l'humain qu'on renvoie, sur c'est le côté un peu waouh, que l'émerveillement qu'on peut avoir quand on vit les choses, tu vois. Moi je repense à, c'est un truc que je cite beaucoup en formation, et j'ai une de tes images en formation, tu sais, c'est quand t'as fait du gyrocoptère au-dessus de Courchevel là.
Oui, ouais. C'était au-dessus
de l'Alpe d'Huez. Ouais. Oui, c'est l'Alpe d'Huez, et c'est un cas que je montre, et en fait j'ai fait des formations dans les stations des Alpes sur les réseaux sociaux, et je leur ai montré cette photo là en disant vous voyez, c'est typiquement le genre de photo qui en apparence comme ça, elle c'est pas la photo d'influenceur avec le selfie devant le truc, etc. Mais le sentiment que ça dégage, etc., ça, je pense que les gens s'y attachent plus en fait, parce que quelque part tu les amènes aussi dans une expérience qui pour toi elle est incroyable en fait. Et je pense que les gens le ressentent, parce que toi, en fait, tu le transmets aussi dans ce que tu fais, et que au final, ils le ressentent. Alors, si tu faisais ça tous les jours, peut-être qu'en fait, ils finiraient par ne plus le ressentir. C'est pour ça, je pense que les influenceurs voyagent au bout d'un moment, on n'a plus envie de les suivre, parce que finalement, on se dit, à force de vivre ça, pour eux, c'est un métier comme un autre. Mais je pense que ça joue aussi beaucoup, mais peut-être qu'on s'en rend pas compte. Hein, tu vois, c'est là où peut-être que le sentiment, la recette, j'ai envie de dire. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ton histoire de laboratoire, mais c'est quelque chose que moi je dis, c'est que en faisant 3 contenus par semaine, et avant t'en faisais 6 ou 7 ou je sais pas combien, en fait tu t'es donné autant de chances de créer quelque chose qui va fonctionner. Alors c'est sûr que sur la totalité, parce que quand même quand on calcule, ça fait quand même 1000 articles de blog par an, hein, ton histoire, à peu près.
Ouais, à peu près, ouais.
Ouais.
Oh, non, quand même pas tant, si.
Oh, non, pardon, excuse-moi. Oh,
non,
là là, excuse-moi, 150. 150, excuse-moi.
Ah oui, tu m'as.
je t'ai mis en 3 par jour. Oh là là, tu vois, mais c'est.
Oui, non, parce que je me suis dit, c'est marrant, je crois que je suis à 3000, je suis à 3000 articles écrits, donc.
Ouais, non. Donc c'est moi qui me suis planté.
Je sais pas.
Mais en fait, ça te fait, allez, on va dire 150 articles par an, ça te fait quand même 150 portes d'entrée et 150 chances de d'amener des gens sur un contenu et sur quelque chose que tu as à partager. Et en fait, je pense que la recette, finalement, c'est aussi de tenter sa chance, hein, de dire, bah tiens, je vais parler de ça. En ce moment, j'ai envie de parler de ça et on va voir ce qui se passe, etc. Et surtout, de pas le faire pour dire, j'ai essayé de faire du buzz avec ça ou quoi que ce soit. Moi, c'est un mot que je déteste. Je le dis, hein, à chaque fois que quelqu'un me dit, je voudrais vous embaucher pour faire une campagne de buzz, je leur dis, allez taper à la porte d'à côté, parce que on est sûr que ça marchera
buzz
pas.
Buzz et influenceur, c'est vraiment deux mots que j'aime pas du tout, en fait. Je trouve,
Donc, on peut pas dire que t'es une influenceuse, alors.
Ah non, bah non.
Non.
On peut, hein, mais moi je me retrouve pas là-dedans.
Ouais.
Non, parce que pour moi les influenceurs, c'est ces gens sur Instagram qui ont des centaines de milliers de followers, etc. Ou sur YouTube. Mais moi je suis multiplateforme et j'ai pas autant de monde en fait. Et c'est pas le but. Enfin, j'ai pas du tout envie d'avoir 320 000 personnes qui me suivent. Mais je sais pas, influenceur, je trouve ça un peu, puis c'est un peu négatif, non? Moi j'ai pas envie d'influencer les gens, j'ai envie de les faire rêver, de les faire rigoler, de leur donner des envies, oui peut-être, mais c'est pas le but premier. Moi ce que j'aime, c'est partager en fait. Je veux pas les influencer, je veux partager et que les gens qui me suivent se retrouvent en fait dans ce que je fais, dans ce que je suis. Je cherche pas à convaincre quelqu'un que ce que je fais, c'est génial. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et pardon, du coup, je t'ai coupé sur... ouais, et alors, le buzz, moi, déjà, je trouvais que quand ça a été créé, le nom, c'était déjà ringard. Donc oui, c'est vrai quand on te dit ça. Mais en général, c'est pas forcément des gens qui sont très habitués à Internet qui te parlent du buzz.
Ouais, c'est ça.
Et ouais.
C'est ceux qui veulent prendre un raccourci. Moi, j'appelle toujours les gens qui veulent ils veulent des raccourcis
Ouais.
rapides et ils ont pas envie de faire les efforts pour le faire.
Ouais.
Après, bon, influenceur, je pense que le mot est mal connoté parce que c'est par le comportement de certains,
Ouais.
je pense. Mais en fait, et j'ai fait un article, un épisode de podcast sur le sujet. Tu sais que moi, j'ai acheté un mug un jour, un thermos, enfin, comment on appelle ça, un mug isotherme, voilà, comme ça,
Ouais.
en écoutant les conseils de quelqu'un qui, je sais pas combien il a de followers ou d'amis sur Instagram, tu vois, je vais pas te dire de bêtises, donc je vais même pas donner le chiffre, mais en tout cas, c'est on va dire 10 fois moins que toi, mais le simple fait que je le suive et que je suive ses aventures, et il se reconnaîtra hein, s'il écoute cet épisode, je dis, bah moi je lui fais confiance, il me dit que ce mug est bien, il a mis un lien Amazon, je clique dessus, ça lui fait une petite prime, et moi ça me coûte pas plus cher que ça. Et donc, par ce biais-là, en fait, il est influenceur, parce que,
Oui.
certes, c'est un mini-influenceur, et le micro-influenceur, j'ai envie de dire,
Ouais,
mais
micro.
du fait que j'ai confiance dans ce qu'il partage, etc., tu vois, dans ses conseils qu'il donne vraiment sincèrement en tant que papa, etc. Bon, ben, finalement, il m'influence aussi dans mes achats, dans ce que je peux faire, etc. Donc, quelque part, enfin, on est bien
Oui.
influenceur, mais c'est juste
Oui.
que on a mis cette espèce de notion d'influenceur en disant c'est tout à l'heure tu parlais d'Enjoy Phoenix, on pourrait parler de Sissi Mua et compagnie, quoi. Mais en fait,
Ouais.
ils ont une image qui est un peu, ils donnent une image qui est mauvaise, un petit peu. Et puis, alors je le disais, mais je vais faire un épisode de podcast sur le sujet. Je disais, le jour, je vais faire un truc, je vais souhaiter bon courage à ceux qui aiment Sissi Mua. Tu vois, qui la suivent tous les jours. Parce que ça doit être déprimant de la suivre, tu vois, quand tu la vois avec sa vie parfaite, ses muscles, son copain, les plages, etc. Et que si toi, t'es coincé dans ton bureau, tu sais, et que t'arrives pas à manger bien, que t'arrives pas à faire de sport, etc. Tu sais, je me dis quand même, c'est là, j'ai une étudiante qui fait en ce moment, tu sais, l'estime de soi et Instagram. C'est son
Ouais.
mémoire, c'est ça.
Ah bah c'est un super sujet, hein. C'est clair que c'est
Ouais.
un super
Elle a
sujet.
fait un super super boulot et je vais lui envoyer le lien. Je vais dire, il faut quand même que vous étudiez ça parce que c'est un truc de fou. Et effectivement, je pense que cette notion-là de l'influenceur, en revanche, elle, tu vois, elle est vraiment très très connotée parce que parce qu'il y a aussi tout un espace de jeu sur l'image, etc., qui finalement est sûrement pas très sain non plus, tu vois. Mais
C'est clair.
après, en tant que tel, on est tous des influenceurs à notre
Oui.
niveau, voilà, petit
Et
niveau, mais niveau.
moi je suis peut-être alors dans ce cas-là, mais aussi je suis hyper influencée parce que tu
Bien
vois, il y a
sûr.
des comme je suis beaucoup de monde, des copines blogueuses, etc. Ouais, c'est vrai. Après, je rebondis sur quelque chose que tu disais. Moi, j'interviens à l'université de Bretagne Sud à Vannes, donc pour présenter mon activité, etc. Alors, c'est pas un cours magistral, hein, je donne pas de recettes, etc. Mais j'explique un peu mon parcours et puis voilà, c'est un peu une discussion comme on a là. Et moi, ce que je leur dis, parce que alors, la question qui revient toujours, c'est ouais, mais si vous êtes payé, en gros, si t'es payé, tu peux pas être sincère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire de la publicité pour quelque chose que vous n'aimez pas? Et est-ce que vous avez déjà refusé pour des choses qui ne vous convenaient pas? Donc, je leur dis toujours, bah oui, moi je refuse beaucoup plus de choses que je n'accepte. Et voilà, et si vraiment un produit ne me convient pas, ben j'annule le contrat. Et alors, je vois toujours, elle me regarde toujours d'un air un peu dubitatif en disant, eh, c'est ça, c'est ce qu'elle elle peut toujours me raconter ce qu'elle veut, voilà. Mais après, je leur dis, mais en fait, moi, ma. Bon, enfin, moi, ma plus grande monnaie, on va dire, c'est ma sincérité et la confiance des gens. En fait, si je perds la confiance des gens, je perds tout. Donc, je peux pas me permettre de raconter n'importe quoi non plus parce que les gens te loupent pas. Et déjà sur le blog, ils te loupent. Alors sur les réseaux sociaux, tu te fais dégommer en moins de deux. Et on n'a pas parlé des trolls, etc. Moi, j'en ai très peu, mais ça m'arrive quand même d'avoir sur Instagram des commentaires pas très sympas en disant, ben voilà, tu parles de ça, mais. Enfin voilà, je me fais renvoyer dans mes 22, surtout quand je parle de cosmétiques et que je fais pas que de la promotion de cosmétiques 100% bio, etc. Donc voilà, donc moi, ma crédibilité, en fait, c'est ma plus forte monnaie. Donc je peux pas raconter n'importe quoi, je peux pas aller dans un endroit et dire c'est génial si c'est pourri, ou alors dire bah, cet endroit-là est merveilleux si juste à côté il y a vraiment un truc vraiment, vraiment moche. Enfin, parce que de toute façon, on va pas me louper. Sur tous les gens qui me suivent, il y aura forcément quelqu'un qui se rendra compte que je raconte du pipeau, quoi. Puis en plus, bon, le truc, c'est que je sais pas du tout mentir dans la vraie vie, hein, donc je suis la plus mauvaise menteuse de l'univers. Bon, voilà, ça se voit tout de suite, mais quand bien même à l'écrit, ça pourrait passer, mais non. Voilà, donc oui, je trouve que la sincérité est... Bah, c'est le plus important, en fait. Donc, voilà, c'est hyper important et ça se détecte quand même assez vite. Et quand tu parles des raccourcis, tout va voir tout de suite. Moi, ça fait quand même, bah, ça fait 13 ans maintenant que je suis sur le blog. Il y a certainement des gens qui m'ont suivi, qui ne me suivent plus pour X ou Y raison, et c'est normal. Mais je pense pas qu'on puisse dire que je suis pas sincère dans ce que je dis et dans ce que j'écris. Alors si c'est le cas, j'aimerais bien qu'on en discute parce que voilà, moi je dis ce que je pense et je pense ce que je dis quoi. Et je pense que c'est hyper important, même pas pour pouvoir m'en regarder dans une glace, c'est que même au niveau du job, c'est hyper important quoi.
Exactement. Et bon, allez, un dernier mot, parce qu'il y a un truc, je sais pas si tu le fais toujours d'ailleurs, tu fais toujours un projet 365 en photo, ou des choses comme ça, ou...
J'ai arrêté cette année, je crois que je l'ai fait pendant 7 ans.
Ouais.
J'ai arrêté cette année, parce que j'arrivais un peu au bout du concept. Et ça m'amusait moins, en fait, ça m'amusait moins qu'avant, donc j'ai arrêté de le faire. Et oui, pendant 7 ans, je crois, j'ai fait le projet 365, donc une photo par jour. Il y a même une année où j'ai fait une seconde de vidéo par jour.
T'as réussi?
Ouais, j'ai réussi.
Waouh, alors là.
J'ai réussi et alors bon, la vidéo par contre elle est ultra longue hein, parce qu'une seconde multipliée par 365 ça fait un paquet de secondes et la vidéo à mon grand étonnement a cartonné et j'avais été repris par Flow Magazine donc je pense que ça a aidé aussi un peu à sa visibilité mais en fait c'est génial parce que comme projet. Au début, quand je me suis lancée, il y a eu un espèce d'effet de mode sur les blogs et je me souviens de quelqu'un sur Twitter qui avait mis un commentaire qui m'avait vachement vexée, enfin pas vexée, mais tu vois, qui m'avait piqué un peu là, en disant ouais, tous ces, enfin vous êtes tous là au 15 janvier à parler de votre projet 365, mais au 30 mars, enfin au 1er mars, il y aura plus personne quoi. Je lui dis non mais non.
Je vais tenir.
Mais non seulement j'ai tenu, mais j'ai tenu 7 ans. Donc voilà. En fait, ben, la première année a été compliquée parce que Instagram, c'est l'année des tout débuts d'Instagram. Donc ça devait être 2012, tu vois. 2011, ça devait être 2011. Et au début, moi, je faisais toutes mes photos avec mon réflexe. Donc c'était un peu compliqué. Puis après, avec l'avènement des smartphones, d'Instagram, c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai continué à faire ça. Et en fait, ce que j'adore, c'est que quand je me replonge dedans, ben voilà, je me replonge dans mes souvenirs, des moments, des impressions, etc. Donc je trouve que c'est un support vraiment génial. La vidéo, ça avait été plus complexe à faire. Alors j'avais quand même balisé le terrain en faisant une vidéo récap par mois, parce que ça faisait que 30 secondes à monter, etc. Mais ouais, non, c'est un super exercice et ça exerce beaucoup. L'œil, en fait, alors je dis pas que je suis photographe, mais je prends pas mal de photos et du coup, ça, c'est vrai que ça, c'est hyper formateur. Et puis pour arriver dans une journée où il se passe pas forcément grand-chose, à trouver une photo qui est à la fois représentative de cette journée où il s'est rien passé et qui soit un peu sympa, ben ça, voilà, tu t'exerces ta créativité.
C'est pour ça que je dis que c'est un entraînement qui est très 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 intéressant. Alors c'est sûr que c'est pas facile. Moi j'en ai fait 2 3 ans. Il y a une année j'ai lâché le truc. J'ai dit au bout d'un moment, j'arrivais plus en fait. Ça m'amusait plus. Voilà. On va dire grosso
Ouais,
modo ça m'amusait
mais c'est
plus.
ça.
Moi j'ai fait de la vidéo quotidienne aussi. Je fais du podcast en quotidien. Donc je suis un fervent défenseur du quotidien pour s'exercer et apprendre des choses.
Mais
Je
complètement.
sais que dans certains qui écoutent, il y en a certains qui sont exercés aussi à faire du blogging quotidien, alors eux sur une semaine, etc., pour déjà voir hein, un petit peu ce que c'est. Mais ça paraît compliqué au début, puis on arrive à des journées, on dit oh, j'ai pas fait ma photo, comment je vais faire, etc. Et donc, Moi, j'ai des photos qui ont été prises à 23h59, mais le podcast aussi. Un jour, j'ai publié à 23h58 un épisode de podcast en me disant faut que j'y aille, faut pas que je brise ma chaîne, etc. C'est mon truc, faut pas que je brise, etc.
Mais... Ah bah oui, parce que tu te dis que si tu t'arrêtes, tu reprendras jamais.
C'est ça. Voilà.
Ce qui est pas vraiment vrai, mais c'est bien parce que en fait, moi, je trouve que dans la contrainte, on est vachement créatif.
Exactement.
Et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Enfin bref, je peux te sortir tout un chapelet d'expressions toutes faites, mais oui. Et c'est pour ça que de publier souvent sur le blog aussi, ça entretient cette envie de publier. Et ça te déclenche plein de nouvelles idées qui sont aussi amenées par, comme tu disais, par les commentaires, etc. Ça foisonne en fait. Et t'es pas tout seul dans ton coin en train de faire ton truc. Tu te mets des petites contraintes, t'as un échange avec les autres. Donc, c'est hyper riche.
Ouais.
Hyper enrichissant.
Mais moi, je le dis, et j'ai fait des épisodes et puis j'ai écrit encore il y a pas longtemps, hein. Si tu veux devenir quelque chose, on va dire la création de contenu en général, il faut commencer par faire l'essentiel de ce qu'il faut faire.
Mais
donc
oui.
Si tu veux devenir un blogueur, bah il faut commencer à bloguer le plus souvent possible et créer le maximum d'opportunités pour que les gens te découvrent d'une manière ou d'une autre. Alors c'est sûr qu'au départ tu parles dans le vide. Parce que personne te connaît, même Google a du mal à savoir où il va te classer, donc il va mettre des mois et des mois à te classer. Mais toujours est-il que ce travail que tu fais dans l'ombre, en plus tu prends pas de risque puisque comme personne te lit, il y a peu de chances que tu aies un commentaire qui te dise c'est nul ce que tu fais. Te permet aussi d'apprendre, de mettre en place des techniques, des stratégies, de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je voudrais finir là-dessus. Est-ce que tu as une stratégie finalement pour dire quand tu écris ton billet de blog comme ça, est-ce que tu as une, j'ai envie de dire, une petite routine, tu vois, une petite manie, quelque chose, ou est-ce que tu commences toujours par un élément particulier, par une structuration, ou est-ce que tu le fais à l'arrache parce que t'as le truc qui te vient comme ça d'un coup dans la tête? T'as une astuce ou finalement c'est un peu éparpillé?
Alors c'est pas une astuce, c'est une manie, c'est-à-dire que je peux pas écrire mon article si j'ai pas de visuel en fait. Et donc je commence toujours par traiter mes photos et même si c'est un article où j'ai pas de photos, par exemple pour la fête, la soirée des 16 ans de mon fils, j'avais pas pris de photos, etc. Enfin, je suis allée chercher une photo dans une banque d'images libre de droit parce qu'en fait j'ai besoin de soi, de ça. Et quand je fais mes articles de voyage, je commence toujours par traiter mes photos. Et souvent, je les mets en place en fait dans l'article et j'écris après. Donc c'est une manie, mais c'est pas une astuce parce que ça me parle. Ça me convient, mais ça conviendra peut-être pas à d'autres personnes. J'ai une liste d'articles à écrire dans mon bullet journal, mais il n'y a pas énormément de choses en fait. Je planifie très peu à l'avance, même quasiment pas. Même pas en fait, enfin voilà, c'est exceptionnel que je planifie. Si je planifie, c'est pour parce que j'ai fini d'écrire à 15h ou à 16h un lundi et que je veux le publier le mardi matin, mais j'ai pas de brouillon à moitié écrit. En fait, quand je commence un truc, je le termine.
D'accord.
Alors ça peut prendre 3 jours, mais je commence pas un article pour le finir 6 mois après. C'est l'assurance que ce truc-là ne sera jamais terminé. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui font pas ça du tout, qui ont 50 brouillons entamés dans leur admin. Non, moi ça n'arrive pas. Là je vois en brouillon, j'en ai 6. Je suis devant mon admin parce que je suis allée voir le nombre d'articles que j'avais écrits, tu vois. Mais en fait, il y a juste le titre. Parce que c'est la liste que j'ai dans mon bullet journal, mais il n'y a pas un mot en fait dans mes articles. Voilà, c'est je fonctionne comme ça.
Mais c'est intéressant ton histoire de commencer par les images. J'ai fait des trucs sur le fait qu'on a besoin d'un starter en fait, tout simplement quelque chose qui nous aide à démarrer. Et chacun après a son starter. Il y en a certains et dans les techniques d'écrivain, c'est que Hemingway par exemple, son starter à lui c'était de jamais finir une phrase. Quand il arrêtait d'écrire un jour, en fait, il laissait toujours une phrase en suspens. Non pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait mettre à la fin, mais justement parce qu'il savait ce qu'il allait mettre dedans ensuite, mais qu'il se le gardait pour le lendemain matin.
D'accord.
Et donc, quand il s'installait à sa chaise le lendemain matin, il finissait la phrase qu'il avait commencé à écrire, et c'est ce qui lui permettait de démarrer la suite de son écriture, en fait.
Ah,
et il y a
génial.
Plein d'auteurs qui font comme ça, en fait. Ils ont besoin d'un starter. Alors, le starter, ça peut être des questions. Moi, je travaille beaucoup avec la notion de questions, hein. J'ai fait des sujets là-dessus. Ça peut être des thématiques, ça peut être des points, ça peut être, tu sais, t'as la méthode à la Zenfeld, mais aussi Seth Godin qui sont, ils voient un truc dans la rue, ils te racontent l'histoire, et puis ensuite, ils embrayent sur tout un tas de choses plus techniques, marketing, etc. Mais finalement, chacun peut avoir son starter, et effectivement, le côté image, quand on est visuel, etc. Et c'est aussi ta manière aussi à toi de ressentir, de vivre les choses et de les partager.
Ouais.
Peut-être que certains pourraient avoir envie, peuvent essayer de se dire que peut-être que pour eux, ça peut fonctionner. Comme je pense que certains vont plutôt fonctionner, tu sais, avec un son, de la musique ou des choses qui sont totalement différentes. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est de se dire, bon, ben, qu'est-ce qui va m'aider à des fois à démarrer? Est-ce que il y a pas un petit truc qui m'aide à démarrer? Et je trouve que bah toi, sans qu'il y paraisse, ton astuce, elle est excellente. Donc je te remercie pour cette astuce là.
Avec plaisir.
On va rester là-dessus parce que je trouve que c'est une belle manière de terminer. S'il y a un petit mot de conclusion quand même, est-ce que tu auras un mot pour tu sais bon, il y en a qui nous écoutent, qui disent ah bah tiens, j'aimerais bien moi aussi par exemple me lancer dans l'aventure du blog, ouvrir un blog, etc. Finalement, si tu as un conseil pour leur dire qu'il faut oser le faire, qu'est-ce que tu leur dirais en fait hein?
Alors moi je dis souvent vous avez envie de bloguer, lancez-vous, c'est gratuit, ça, tu peux créer ton blog en 2 secondes. Voilà, il y a aucune barrière technique au blogging. Il faut juste en avoir envie et se lancer et ne pas forcément attendre quelque chose de précis, parce qu'en fait, moi, à chaque fois, j'ai des choses qui arrivent auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et donc, c'est laisser la porte ouverte à plein de surprises et plein de belles choses, en fait. Donc, moi, j'encourage les gens à bloguer. Parce que quand j'ai commencé surtout à voyager avant, c'était un peu moins le cas, mais quand j'ai commencé à beaucoup voyager, j'avais plein de copains qui disaient « Ah, mais c'est génial, moi aussi, je vais ouvrir un blog. » Et je leur dis à chaque fois « Mais vas-y !» Ils disent « Bah, pourquoi ?» Et je dis « Bah, vas-y, enfin, c'est gratuit. Ça, tu fais en 30 secondes, ton blog, il est ouvert. Après, tu écris ce que tu veux dessus, tu t'éclates. Vas-y !» Ah ouais, mais moi je sais pas faire. Ben moi non plus je savais pas faire quand j'ai commencé. Hein. Voilà. Donc oui, lancez-vous. Hein, lancez-vous. Si vraiment c'est quelque chose qui vous fait envie, mais surtout ne pas résister quoi. Plongez.
Eh ben, c'est une conclusion parfaite. On va rappeler où est-ce qu'on te retrouve. Hein, on l'a dit au début, on va le redire à nouveau. Donc l'adresse de ton blog.
C'est merciporlechocolat.fr. Tout attaché.
Tout attaché. Alors, sur le site, on retrouve tous les liens vers les réseaux sociaux. Peut-être, si la chaîne YouTube, il n'y a peut-être pas d'icône, en fait.
Écoute, non. C'est peut-être pour ça que j'ai que 150.
En fait, alors, il faut chercher dans l'onglet, dans le menu Mes vidéos, vous avez ma petite chaîne YouTube, vous avez des liens vers les vidéos, etc. Je le dis, hein, pour ceux qui voudraient voir les vidéos, et notamment, on voit ton projet par jour, une photo par jour en 2017, qui est encore dans le menu. Tu montres un petit peu tout ça et la fameuse vidéo des Bahamas, vacances en famille aux Bahamas, etc. Fameuse tout ce qu'il y a sur la danse, etc. Ce qui sont intéressants. Donc la chaîne YouTube, on la retrouve au moins par ce biais-là. Mais sinon, si on doit chercher Merci pour le chocolat, peut-être qu'on doit te retrouver, non?
Je pense que ça doit se retrouver facilement.
Céline, Merci pour le chocolat, on te retrouve sur YouTube, sur Pinterest et sur les autres réseaux sociaux, on te retrouve.
À MP Choco.
MP Choco. Voilà, ben je te remercie encore pour ton temps, tes conseils et puis ben ton sourire, parce qu'on t'entend sourire quand tu parles de tout ça et c'est vraiment super agréable et c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter pour parce que bon, c'est vrai, on l'a dit hein, mais 2009 voilà, 2009, je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça que qu'on
allait
travailler sur ce site.
Je t'assure.
Ouais, et d'ailleurs, c'est ce qui pour dire hein, vraiment l'opportunité, ce projet-là, moi je sais pas comment toi t'avais été embarqué, moi j'étais embarqué sur un jour quelqu'un m'envoie un mail, il me dit on a vu votre blog, est-ce que vous voulez pas faire la même chose pour Monoprix?
Voilà. C'était ça.
Et ils
c'était
m'ont
exactement
dit,
ça.
Dit si ça vous intéresse, appelez-nous. J'ai dit bah je vous appelle tout de suite, j'étais au boulot, tu vois, ma pause comme ça midi, et j'ai appelé, ils m'ont dit bah voilà, on a tant d'articles à faire, c'est payé tant, et on vous en demande un par semaine pendant. Et j'ai dit quoi? c'est vraiment possible votre histoire. Et effectivement, c'est démarré, mais vraiment exactement comme ça. Et peut-être à cause de cette histoire, tu vois, d'articles sur les anticernes, c'est pas du tout impossible.
Ça se trouve, oui, c'est ça. Ils t'ont trouvé comme ça. Hein.
Peut-être, voilà, tu vois, ils m'ont trouvé comme ça. Mais c'est comme ça que ça démarre. Et moi, je le dis souvent, on sait où on commence, mais on sait pas où on arrive. Mais en tout cas, toi, tu as donné toutes les pistes pour oser le faire et pour commencer à le faire. Et je te remercie beaucoup pour ça. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle soirée sur le moment où vous allez écouter cet épisode. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.